Ça fait plusieurs semaines que nous étudions cette lettre. C'est une lettre que Paul a écrite à ce jeune Timothée qui avait la charge de un peu remettre de l'ordre dans l'église à Éphèse où il se trouve. Cette église avait été malmenée un certain temps par des mauvais conducteurs. Et c'est pour ça que nous parlons de la bonne conduite de l'église. Nous arrivons vers la fin de la lettre, notamment au chapitre 6. Et je vais vous faire la lecture des versets 3 à 11 et puis 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Récemment, il y avait un étudiant en Centrafrique. Il se trouvait dans un cours de gestion des entreprises. Et leur prof leur a demandé à la classe, « Quel métier pensez-vous être le plus rentable ?» Alors, les étudiants donnaient plusieurs réponses. Certaines proposaient l'exploitation pétrolière, d'autres le commerce, la banque. Mais le prof les a surpris en disant, « Chez nous, c'est la religion. » Effectivement, le prof pouvait pointer vers le grand luxe matériel dans lequel vivent certains membres du clergé dans ce pays, comme bien dans d'autres, malheureusement. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on trouve ce qu'on pourrait appeler une arnaque théologique, où les membres, les responsables de culte et d'église enseignent et disent, ce qui est une fausse doctrine, nous croyons, que si vous donnez beaucoup d'argent, si vous me donnez beaucoup d'argent, Dieu va vous bénir en retour. Alors, exploiter la religion à des fins financières, c'est répandu et ce n'est pas nouveau. Cette année, comme vous savez, nous avons beaucoup parlé de la réforme protestante. Et ce qui a déclenché la réforme était la vente des indulgences, où l'Église trouvait intéressant, où on réussit à monter ce projet. L'Église gagnait l'argent en vendant le pardon. Et derrière beaucoup des pratiques et des doctrines qui ont fait réagir Martin Luther et d'autres comme lui au XVIe siècle, c'était cet amour de l'argent et le pouvoir qui vient avec et les abus qui s'en suivent. Et dans ces religions-là, même si on parle d'un Dieu, finalement le vrai Dieu du système, le vrai Dieu de la religion, c'est l'argent. Alors on pourrait se dire la solution, c'est se débarrasser de la religion, puisqu'elle conduit souvent à des pratiques abusives. Mais le problème, c'est qu'on s'est débarrassé de la religion, mais notre époque moderne a quand même gardé le même Dieu, le même Dieu du système, le Dieu de l'argent, ce qui amène son lot de problèmes aussi. Le problème de l'argent n'est pas réservé aux religions et aux églises. Finalement, lorsque on est dans une position de responsabilité, quel que soit le cadre, que ce soit en politique, en religion, la tentation est grande de vouloir s'enrichir personnellement. Et il semble aujourd'hui qu'il y a vraiment une prise de conscience nationale même, avec notamment toute cette discussion sur la moralisation de la vie politique, que nous devons veiller sur ces questions d'argent. Et d'après les conseils même de Paul ici, on serait d'accord qu'il vaut mieux que les responsables ne soient pas motivés par un amour de l'argent, par la cupidité. Cela conduit à bien des problèmes. Et c'est pourquoi ce texte peut nous aider encore aujourd'hui et nous motiver. C'est vrai qu'il y avait des mauvais enseignants dans cette église à Éphèse que Paul et Timothée veulent, dont Paul et Timothée veulent se débarrasser pour mettre des bons responsables en place. Mais même ces enseignants qui propageaient des fausses doctrines, on voit finalement qu'ils étaient motivés par l'argent. Comme c'est souvent le cas, le problème au fond, c'est ce trafic d'argent, comme dit le verset 5, ils croyaient que la piété était une source de gain. Alors, pour aider cette église à bien choisir ses conducteurs, Paul va terminer cette lettre à Timothée avec des réflexions sur l'argent, mais finalement qui s'applique à tous et qui nous aide tous à bien se conduire. Les réflexions sur l'argent sont au cœur de notre vie quotidienne. C'est souvent ça qui touche les couples et les réflexions dans le foyer peuvent créer encore des disputes. Donc, Paul, dans ce passage, va nous donner quelques conseils pour bien gérer l'argent et avec la foi. Alors d'abord, il va s'adresser dans les versets 6 à 10 à ceux qui veulent plus, et puis dans les versets 17 à 19 à ceux qui ont déjà plus, ceux qui sont riches et comment eux ils peuvent gérer leur argent. Commençons d'abord avec ceux qui veulent plus. Est-ce que ce n'est pas un peu nous tous qui veulent plus d'argent? Il dit en verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir, combien ici ne veulent pas s'enrichir? Combien ici ne veulent pas plus d'argent? C'est tellement dans le cœur humain. Pourquoi? Pourquoi nous voulons tous plus d'argent? Pourquoi il est très rare de refuser une augmentation ou une plus de richesse? Eh bien, nous allons voir ça dans ce passage. Le grand conseil de Paul dans ces versets, ce qui va encourager les chrétiens à vivre, c'est le contentement, comme vous voyez dans le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le vrai gain, dit Paul, ce n'est pas l'argent, c'est le contentement. Vous êtes gagnant, pas si vous avez les bons numéros au loto, mais si vous avez le contentement, si c'est un trait de votre cœur et de votre vie, de votre foyer, de votre manière de réfléchir. Alors pourquoi le contentement est une grande source de gain, plus que l'argent? Le contentement, c'est être satisfait avec déjà ce qu'on a. Alors il va donner trois raisons. Tout d'abord, parce que rien ne s'emporte. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Rien ne s'emporte après cette vie ou dans la vie suivante. Les fast-food vous demandent toujours sur place ou à emporter. Mais la mort ne vous laisse pas le choix. L'éternité ne vous laisse pas le choix. Et déjà cette perspective que donne la foi, que donne cette piété, cette vie de foi, cette perspective devrait nous aider à réfléchir sur nos priorités. Alors on va faire un petit exercice ensemble ce matin. Si vous deviez quitter votre maison, et que vous aviez droit à prendre 5 objets, qu'est-ce que vous prendrez? Je vous donne quelques instants pour réfléchir. 5 objets, si vous quittez la maison. Alors, on ne parle pas des personnes. Je pense déjà, ça montre, je pense que tous les parents mettent l'accent sur les enfants. Forcément, on prendra les enfants. Mais 5 objets. Donc, si vous devez parler à votre voisin, je vous laisse 5 objets. Qu'est-ce que vous prenez si vous devez partir et ne pas revenir? 5, c'est pas évident. Voilà, 5. Ok, faisons le point. Dans les 5 objets que vous avez choisi de garder, probablement, vous n'avez pas choisi les objets, finalement, qui coûtent le plus cher en termes d'euros, forcément. Je ne sais pas si quelqu'un dit, je prends avec moi le système de chauffage. Même si c'est peut-être là un des objets qui est le plus coûteux de votre maison. ou les menuiseries de la maison. Bon, ça aussi, peut-être, ça coûte quelque chose, mais probablement, vous avez choisi des objets qui vous sont précieux, mais déjà, ça montre que forcément, quand vous emportez des choses, c'est pas forcément l'argent qui vous intéresse. Alors déjà, réduire à 5 objets, c'était peut-être difficile, ou maintenant, je vais vous simplifier la vie, et si vous deviez partir avec 0 objet, eh ben, la choix est vite fait, vous partez. Et notre vie est ainsi. C'est une évidence. Nous le savons tous. Il est évident, il dit. C'est une évidence que nous n'emportons rien. Comme plusieurs ont remarqué, les corbillards n'ont pas de remorque. Vous avez jamais vu une remorque pleine des affaires de la personne. Et votre corbillard n'aura pas de remorque. Cette idée ne peut-être pas nous donner quand même un certain contentement dans la vie. Et d'ailleurs, il évoque le jour qu'on est venu dans le monde. Et on vient dans le monde dans les mêmes circonstances, donc on quitte le monde, seul, nu. Le jour où vous étiez bébé dans les bras d'un parent, en train de téter, vous étiez bien. D'ailleurs, vous n'avez rarement été si bien et si confortable et si peu soucieux dans toute votre vie que le jour où vous n'aviez strictement rien. Et ça peut nous aider en tant que croyants. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, des croyants, nous sommes dans les bras d'un Père céleste qui nous aime et qui prend soin de nous. Et nous pouvons vivre ce contentement grâce à ces réflexions. Donc, pour ceux qui veulent plus, rappelez-vous, rien ne s'emporte. Pensez aussi que l'essentiel suffit. Le verset suivant, verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » En êtes-vous convaincu? C'est difficile parce que le monde de la consommation nous dit constamment le contraire. Ce que vous avez ne suffit pas. Mais est-ce que c'est vrai? Déjà, il évoque le nourriture, le vêtement. Je pense que le mot littéral, c'est couverture. Donc, dans le vêtement, on peut entendre aussi logement. Ce qui représente le pain quotidien, les besoins normaux de la vie. Et c'est normal de vouloir rechercher des choses et Dieu sait qu'on a besoin. Mais le contentement, c'est reconnaître que si je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai, je ne serai pas satisfait avec ce que je veux non plus. Si je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai, je ne serai pas satisfait avec ce que je veux non plus. C'est comme ça que fonctionne le cœur humain. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait « La richesse, c'est comme l'eau de mer. Plus vous en buvez, plus vous en avez soif. » Et c'est bien une réalité que nous pouvons confirmer. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le mécontentement, c'est une affaire du cœur. C'est dans le cœur que cela réside, pas dans les circonstances ou dans les objets que nous pouvons posséder. Alors, vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer de voiture, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de quartier. Mais la chose qui vous suit dans tous ces changements, c'est votre propre cœur. Il est toujours là. Alors, finalement, c'est lui qu'il faut travailler. C'est lui qu'il faut remplir, pour qu'il soit rempli, pour qu'il soit plein, pour qu'il soit satisfait. Et pour remplir un cœur, vous savez bien, ce n'est pas des euros, ce n'est pas des choses, ce n'est pas qui remplissent le cœur. Ce qui remplit le cœur, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, savoir être aimé de Dieu. Voilà ce qui remplit le cœur. Et donc, ce qui fait qu'on peut être content dans toutes sortes de circonstances, parce que ce cœur-là, ce cœur pieux, ce cœur de foi, il sait que le gain vient dans le contentement parce que Dieu a rempli son cœur. Donc l'essentiel suffit si Dieu y est, si Dieu s'y trouve dans votre cœur, vous allez vivre ce contentement, même avec l'essentiel, et être reconnaissant pour déjà tout ce que Dieu vous donne. Une autre réflexion qui peut aider à vivre ce contentement, pour nous qui voulons souvent plus, c'est de dire que les tentations et les pièges en ce qui concerne l'argent sont quand même très nombreux. Les pièges abondent. Là, il dit dans le verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Quand Paul parle de ce désir de s'enrichir, il ne parle pas d'un désir intègre de réussir ses études, de faire un bon travail, de vouloir que son entreprise réussisse, mais ce désir, c'est quand c'est une fixation, quand c'est un but dans la vie, un but avant tout de gagner l'argent. D'ailleurs, c'est comme on a dit, un responsable, que ce soit d'église ou en politique, si son seul but, c'est de s'enrichir personnellement, ça fait de lui un mauvais responsable. Et un désir pernicieux, il va avoir du mal à repousser les tentations qui peuvent abonder dans ce domaine. Quels sont les pièges qui abondent en ce qui concerne cette soif d'argent, cet amour d'argent? Vous les connaissez bien. On peut parler des addictions, les jeux d'argent. Le surendettement, selon le Nouvel Obs, 800 000 Français sont dans la spirale du surendettement, souvent poussés et encouragés par les organismes du crédit qui veulent aussi s'enrichir. Bien des hommes politiques sont pris dans le scandale et je suis sûr qu'ils feraient des choses bien différentes une fois qu'ils voient les pièges et les tourments que peuvent jeter ce désir, cet amour de l'argent, le cycle de mensonge qui s'installe. Mais Paul nous aide en verset 10 à comprendre ces pièges, à les éviter. Il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » C'est l'amour de l'argent qui crée le problème. Et il faut, ça nous aide de comprendre le fonctionnement de notre propre cœur. Et ça, c'est une réalité dans toute la Bible. Si vous aimez vraiment quelqu'un, si vous aimez quelque chose, vous allez faire ce qu'il lui demande. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. L'argent peut dire la même chose. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quels sont les commandements? Qu'est-ce que l'argent nous dit de faire? Et la chose que l'argent, à la différence de Jésus, l'argent n'a pas de scrupules. Et il vous demande toutes sortes de choses. Mais si vous les aimez, si vous aimez l'argent, vous allez le faire. Qu'est-ce que l'argent vous demande de faire parfois? Il vous demande de vous inquiéter. Il vous demande de vous stresser. Il demande de jalouser. Il demande de mentir. Il demande de voler. Il demande de s'écraser les autres. Il demande parfois de sacrifier votre santé, votre famille, votre sécurité. Voilà ce que l'argent vous demande. Voilà les commandements de l'argent. Si vous m'aimez, vous allez obéir mes commandements. Jésus dit la chose, l'argent dit la même chose. Et c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous ces maux. Et la solution pour nous chrétiens, c'est de dire, voilà, il y a Jésus. L'argent est un mauvais maître, mais Jésus, c'est un bon maître. Et ce que Jésus me demande, c'est beaucoup mieux. Si j'aime Jésus, je vais vouloir l'aimer, le servir, je vais vouloir donner. Et c'est ce que Paul dit à Timothée en verset 11, « Pour toi, homme de Dieu !» L'homme de Dieu ici se référence surtout à sa qualité de responsable, de ministre de Jésus-Christ, mais il s'applique à nous tous. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, cet amour de l'argent, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Voilà ce que produit l'amour pour Jésus-Christ. Et nous pouvons en suivre. Alors attention aux pièges qui abondent lorsqu'on aime l'argent. Maintenant, parlons à ceux qui ont déjà plus. Il y a ceux qui veulent plus, qui veulent s'enrichir, c'est un peu nous tous, souvent. Et puis ceux qui ont plus. Pour dire cela aussi, c'est un peu nous tous, parce que si vous êtes en Occident, si vous êtes là ce matin, vous faites partie des riches de la planète, en quelque sorte. Bien sûr, c'est relatif, mais... Voilà, nous sommes pour beaucoup des riches, des très grands riches. Alors, il a quelques recommandations pour ceux qui ont déjà des moyens. Dans les versets 17 à 19. Et déjà remarquez que Paul ne dit pas que c'est mauvais d'être riche ou que c'est un péché. Et les religions ont souvent eu du mal à naviguer entre ces questions d'argent. Soit, on a vu, on utilise la religion pour devenir riche, et on en fait une source de gain, comme dans le verset 5, Et ça, on a vu dans la réforme, tout ce que Martin Luther a dû reprendre, a dû vouloir réformer dans l'Église catholique. Donc on peut vouloir exploiter la richesse, mais l'autre extrême, c'est mépriser la richesse et les choses que Dieu nous donne. Et dire que la vraie piété, c'est faire vœu de pauvreté, c'est mépriser toutes ces choses. Mais ce n'est pas la vision chrétienne de l'argent et des biens matériels. Il ne dit pas que ces riches sont de moindres chrétiens ou qu'ils doivent se culpabiliser, vivre de manière complexée. Il dit d'ailleurs, il reconnaît que Dieu donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si les biens matériels, si la richesse était un problème, il ne dirait pas ça. Donc pensez à toutes les bonnes choses que nous avons, toutes les richesses que nous avons, effectivement, les repas, les vacances, les loisirs, le transport, tout ce qu'on peut faire. Nous devons apprendre à être reconnaissants pour ces choses. Mais quelques recommandations quand même pour les riches. Tout d'abord, pas d'orgueil. Verset 17. Je recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Ah, et là peut-être ça nous amène au cœur du problème. D'où vient cet orgueil? Pourquoi les richesses ont tendance à nous pousser vers l'orgueil? C'est parce qu'on utilise le critère de l'argent pour se croire mieux que l'autre. Et c'est ça que nous achète l'argent, au fond. On aime l'argent, certes, parce que ça nous achète certains conforts. C'est agréable. Mais la vraie puissance, le vrai attrait de l'argent, c'est pour pouvoir rassurer notre conscience. C'est pour nous donner une image de soi. C'est pour réussir une identité. Mais si on base cette image de soi, cette réussite personnelle sur l'argent, forcément, il faut constamment se comparer aux autres et rabaisser les autres, ce qui conduit à l'orgueil. Et c'est là où nous croyons que l'antidote aux abus et aux problèmes de l'argent, c'est la foi en Dieu, vraie foi en Dieu, comprendre ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce que Paul dit, à ce qui en plus... Mettez votre espérance en Dieu et pas dans des richesses incertaines. La suite du verset 17 recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. On a vu comme les religions même souvent substituent le Dieu de la religion avec plutôt le Dieu de l'argent. Alors on se débarrasse de la religion, mais le monde moderne, nos sociétés occidentales, fortement, ont gardé le même Dieu de l'argent. Et vous connaissez comment l'argent veut agir comme un Dieu, comme un sauveur, comme une idole. L'argent veut se substituer à Dieu pour vous sauver, pour vous garantir votre bonheur éternel, pour effacer vos problèmes. Mais ça, c'est incertain, c'est mensonge. Et c'est pour ça que la seule solution, nous croyons, c'est l'Évangile. Et l'Évangile nous dit, c'est ce que nous célébrons chaque dimanche, nous avons chanté beaucoup de ces choses, Christ seul me suffit. Il est ma récompense, il est ma richesse. Et pourquoi Christ nous suffit? Parce que c'est lui seul qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et c'est lui seul qui pardonne nos fautes, nos manquements. Et le message de l'Évangile, qui est différent de toutes les religions, disent que gratuitement, par grâce, Dieu crédite sur notre compte sa perfection, sa richesse, sa justice, sa réussite. Ça, c'est la justification. Et quand vous avez toute la richesse de Jésus-Christ qui est créditée sur votre vie, votre identité, votre cœur, eh bien, vous n'avez plus besoin de vous comparer aux autres. Vous n'avez plus besoin de vivre cet orgueil, cette inquiétude quant à l'avenir. C'est pour ça que l'Évangile est la seule solution pour ne pas être orgueilleux. Et c'est pour ça qu'il dit, mettez votre espérance en Dieu. C'est ça, mettre son espérance en Dieu, savoir si c'est Dieu qui me sauve en Jésus-Christ et rien d'autre. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez être généreux. Et voilà ce qui rappelle aux riches la générosité dans le verset suivant. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. On a dit que selon la Bible, on ne peut rien emporter avec nous. Mais quelque part, on peut l'envoyer devant. Par la foi, Paul va dire ici la même chose que Jésus avait souvent dit. Il dit « Amassez-vous les trésors dans le ciel ». Et en disant cela, c'était un appel à être généreux. Bien sûr, on se rappelle que c'est pas encore une manière de, c'est pas avec l'argent qu'on peut s'acheter le ciel. Ce trésor n'est pas tant un trésor matériel, c'est le trésor de connaître Dieu, d'être dans sa présence, de jouir de lui éternellement, parfaitement. Donc c'est pas avec l'argent qu'on obtient le pardon. Sinon, cela revient aux indulgences et on a déjà voulu réformer cette pratique. Mais cette générosité, cette libéralité, c'est une manière, quand on la vit, c'est une manière d'être sûr que notre cœur ne construit pas son assurance sur l'argent. Et c'est pour ça que la Bible nous invite à la libéralité, ça vient de libre. On est libre de l'emprise de l'argent. Et quand on est, et on montre cette liberté avec des libéralités. Donc en étant généreux, c'est une manière d'être sûr que notre cœur ne construit pas son assurance, son salut, sur un fondement incertain, qui est l'argent, mais sur un fondement solide, qui est Dieu. Et voilà ce qui rappelle aux riches de faire. Donc pour ceux qui veulent plus, c'est un peu nous tous, quelques conseils. Pour ceux qui ont plus, peut-être nous tous, quelques conseils pour rappeler que seul le fondement certain qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous à la croix, c'est ça notre richesse. Je me dis, c'est Noël qui arrive bientôt. C'est justement la saison où nous allons pouvoir mettre en pratique et voir si nous avons compris ces vérités. Est-ce que Noël pour nous va être une saison de consommation, de mécontentement, de vouloir toujours plus? Ou est-ce que Noël va être une saison pour nous de générosité, de libéralité? Rappelez-vous le message même de Noël, que le Dieu riche qui était au ciel, qui avait tout, tout puissant, tout riche, il a quitté ce ciel pour devenir pauvre, pour nous aimer, pour nous sauver, pour nous rendre riches, spirituellement riches. Et puisque Dieu a fait ça pour nous, c'est ça qui nous donne la force nous-mêmes de les vivre dans notre foyer, notre entourage, encore pendant la saison de Noël. Vous allez voir que dans cette église même, il y aura des occasions de vivre cette générosité. C'est la saison bientôt où nous réfléchissons à nos engagements missionnaires, à ce don que nous faisons chaque année, qu'on appelle la fête du roi, qui arrive le mois prochain. Soyez en prière et en réflexion pour que, avec les richesses et les biens que Dieu vous a donnés, vous pouvez les utiliser pour sa gloire et montrer que votre foi n'est pas dans les richesses, mais en Christ qui vous a sauvé pleinement.